Quand on arrive à l'usine, la gaieté nous illumine. L'idée de faire nos 8 heures nous remplit tous de bonheur.
Ah, 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 oui.
D'humeur égale et joyeuse, nous courons vers la pointeuse. Le temps d'enfiler nos bleus et nous voilà tous heureux. La ira, la ira, yeah.
Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Quel plaisir de travailler pour vous. On est heureux comme des fous. Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Ce que vous faites ici-bas, un jour Dieu vous le rendra.
Quand on pense à tout l'argent qu'au fin de mois on vous prend, nous avons tous un peu honte d'être aussi près de nos comptes.
Ah, 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 ah oui.
Tout le monde à la maison vous adore avec passion. Vous êtes notre bon ange et nous chantons vos louanges.
La ira, la ira, yeah.
Merci patron.
Merci patron.
Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale Occupation Colisée on Air. Aujourd'hui, aucun occupant ne sera disponible, bien évidemment, puisque vous allez le voir dans l'émission qui suit. Les choses se tendent pour nos amis du Colisée. Donc, je rappelle que les occupants du Colisée occupent le Colisée dans le cadre d'un mouvement national, le mouvement national des théâtres occupés, qui a commencé il y a 2 mois. Ce mouvement proteste contre la réforme de l'assurance chômage en tout premier lieu et se heurte aujourd'hui à la résistance de certains lieux qui estiment avoir gagné avec la réouverture des salles et demandent aux occupants de partir. C'est aussi le cas à Roubaix où les occupants du Colisée se sont vus signifier un ordre de départ hier matin, donc mardi 18 mai, ordre de départ auquel ils ont répondu par un appel à soutien qui a été lancé en urgence et grâce à toutes les personnes qui se sont mobilisés en un temps record, un dialogue a pu renaître entre le directeur et les occupants. Nous étions bien évidemment de la partie et je vous propose de découvrir tout de suite les arguments des uns et des autres dans ce débat passionnant qui a eu lieu donc hier, mardi 18, dans le hall du Colisée, entre les occupants, leur soutien et le directeur du Colisée.
On ne sait pas vraiment ce qui va se passer à 15h. Du coup, c'est pour ça qu'on vous a demandé de venir, pour qu'on soit quand même plus nombreux, parce qu'aujourd'hui, on était censé être 2. Donc là, maintenant, on est quand même plus. Et je pense que si on peut être tous d'accord ensemble, en fait, faut vraiment que ça reste hyper cordial le plus possible et qu'on reste tranquille, en fait. Juste, vous prenez chacun une chaise, vraiment, et puis on s'assoit, et puis on attend. Parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, en fait. Donc en gros, on n'essaie pas d'envoyer des paroles, des choses vraiment dites ou quoi, ça sert à rien, ça nous décrédibilisera plus qu'autre chose. Juste, voilà, on est là, on occupe et on dérange pas en soi.
En principe, il y a une procédure. Il doit y avoir une constatation d'occupation par un huissier. Après quoi, on devrait avoir une date d'expulsion programmée après constatation d'occupation. Voilà. Donc on va voir ce qui se passe.
Non mais voilà, après on verra ce qu'il en est, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Après Lucier il vient, il constate vraiment qu'on est là, voilà, il n'y a pas de souci, c'est juste qu'on fait les choses dans les règles. Voilà, il n'y a personne qui est dans la justice pour nous dire de sortir. Du coup, ben voilà, je pense que c'est un accord à l'amiable ou pas. En tout cas pour nous, non. De nous demander de sortir, ben voilà, nous on n'est pas d'accord pour l'instant. Et on aimerait juste discuter, en fait. C'est juste ça. C'est vraiment quelque chose qu'on essaye de faire depuis le début. Et c'est quelque chose qu'on a réussi à faire jusqu'à maintenant. Et on savait que l'ouverture des théâtres allait être quelque chose d'un peu plus compliqué. Parce que forcément, on allait toucher du public. Et que ben, c'est aussi une image et une entité, le Colisée. Et du coup, il faut juste qu'on discute. Nous, on veut pas déranger. On veut juste discuter et échanger parmi les gens.
Alors, question, on a vu en ligne des gens, une personne en particulier, qui disait que les occupants et occupantes du théâtre de Roubaix refusaient la reprise des spectacles, que l'occupation, en fait, serait nécessairement un blocage que la direction avait proposé de négocier, mais que vous l'auriez refusé. Est-ce que c'est vrai ?
Ah, ça, c'est fou.
Ah, c'est très intéressant. Nous sommes rentrés de la coordination nationale de Villeurbanne le 25 avril. Il y avait été voté le maintien de l'occupation. Avait été refusé l'appel à blocage. Il était possible qu'on vote l'appel à blocage, non pas comme une injonction à bloquer, mais comme la possibilité de le faire. Cette solution-là, cette option-là, avait été refusée massivement. Avait été voté un appel à chahut, qui pouvait prendre diverses formes, donc à manifester au moment des spectacles, à se manifester, et avait été voté le maintien des occupations à la réouverture des lieux. Quand nous sommes rentrés, nous avons rencontré le directeur, à qui nous avons dit, voilà, on a voté le maintien de l'occupation. À l'époque, il nous a dit, pas de problème. Ça se passe bien depuis le début, pas de problème. On a dit que l'idée, c'était bien évidemment pour nous de continuer à rester, enfin voilà, dans les meilleurs termes qui soient, et que c'était pour nous une occasion géniale de rencontrer le public, de faire comprendre les tenants, les aboutissants du mouvement, la réforme d'assurance chômage, en quoi la culture et cette réforme odieuse sont liées, pourquoi on est solidaires, etc. Il nous avait dit pas de problème, il nous avait même dit vous pourrez éventuellement faire des textes au bord plateau à l'ouverture des spectacles. Voilà, super. Donc, il a toujours été dit et clairement discuté avec la direction qu'en aucun cas on ne bloquerait les spectacles. En aucun cas. Pour vous remettre les choses dans le contexte, là où les choses ont commencé à vriller, y a eu une affiche, une grande banderole avec des hashtags, peut-être l'avez-vous vu, qui reprenaient divers scandales politiques. Hashtag Balkany, hashtag Benalla, hashtag Darmanin, des scandales 49-3, voilà des hashtags connus de tous qui dénoncent seulement, des dérives de la démocratie. Et qui finissaient par la phrase suivante, à quand le hashtag révolution ? Cette affiche a été placardée sur le côté droit du Colisée depuis le 12 avril. Elle était là, elle était dehors. Il y a quelques jours, il y a un peu plus d'une semaine, on l'a rebasculée sur le devant du Colisée, sur la Résie, là où sont annoncés les titres des spectacles en lettres rouges. Et là, c'est à ce moment-là que la mairie s'est mêlée de l'histoire. Il y aurait eu un coup de fil d'un habitant ou d'une habitante signalant cette affiche en disant ce hashtag « À quand la révolution ? » Serait-ce un appel à la violence ? Donc voilà. Là, il n'en fallait pas plus pour que le feu prenne dans les poudres. Donc, y a eu une pression qui a été mise sur le directeur pour faire retirer cette banderole. On savait, ceci dit, que régulièrement, la direction avait les flics au téléphone, au cabinet du maire, et la direction disait toujours « ça se passe bien ». On est dans un dialogue constructif, ça se passe bien. Jusqu'à cette banderole, voilà. Il y avait un tampon qui était fait. La mairie ne voyait pas forcément ça d'un très bon œil, mais il y avait toujours ce tampon qui était fait. Et là, en fait, là, ça a débrayé, quoi. Là, ça a débrayé. On nous a demandé de retirer cette banderole. Nous, il y a un moment où ça nous pose problème qu'on soit censuré, mais on pouvait entendre que ça n'était pas le cadre de nos revendications, en tout cas pas le cadre premier. On parle de dérive de la démocratie. Donc, on pouvait entendre que même si dans l'absolu, c'était cohérent, ok, donc on a fait une réponse par mail dans laquelle on a dit « Ok, on veut bien la retirer, mais pouvez-vous nous garantir qu'il ne s'agit pas d'une stratégie d'expulsion programmée ?» Si vous censurez cette affiche, il y a d'autres signes de notre désaccord avec le gouvernement dans l'occupation. On a ici des portraits de Macron, la honte. Voilà, on a beaucoup de signes d'opposition au gouvernement. Est-ce qu'on va être à nouveau censuré ? On n'a pas eu de réponse. Il nous a été redemandé d'enlever cette banderole à l'issue du marathon de la danse qu'on a organisé jeudi. Nous ne l'avons pas fait parce que de toute façon, on n'avait pas le matos, on n'avait pas d'échelle.
On n'a pas eu de discussion.
Voilà. Mais on n'a pas eu de discussion. Et puis, quand bien même on aurait voulu le faire, on ne pouvait pas. L'affiche a été, la banderole a été retirée hier et nous avons été sommés de quitter les lieux. Voilà pour l'histoire. Il y a un moment où voilà, il y a vraiment la mairie, il y a un cran qui passe avec une inquiétude de la mairie sur un appel à révolution qui pourrait être mal compris dans le quartier.
Et Swann, il y a eu un communiqué de presse du directeur qui est paru tout à l'heure, dans lequel il expliquait notamment que la direction du Colisée avait été solidaire du mouvement, notamment sur les revendications de réouverture des salles ou encore de prolongation de l'année blanche. Et si j'en crois ce communiqué de presse, ben vous devriez partir, puisque maintenant, vous avez gagné.
Ben oui.
Alors qu'est-ce qui fait que vous restez? Pourquoi vous voulez rester encore aujourd'hui au Colisée?
Tu veux répondre, Max?
Oui, bah c'est parce que déjà, de base, dans les revendications, la première des revendications, c'est quand même le retrait de cette réforme d'assurance chômage. Donc déjà, ça, dans tous les cas, c'est d'ici bientôt. Ça se passe quand même le 1er juillet. Du coup, on est quand même en train de se battre pour ça, pour sensibiliser les gens. Et du coup, on n'a pas du tout gagné. Pareil, au niveau de la réouverture des salles, oui, c'est une très bonne chose. Le prolongement de l'année blanche de 4 mois, c'est un petit effort, vraiment tout petit. Voilà, par exemple, moi, ça n'aura pas d'impact sur moi. Donc, qu'est-ce que je vais faire, moi, l'année prochaine? Je ne sais pas si je vais pouvoir retravailler. Donc, en fait, il y a des choses qui sont faites doucement, mais on ne peut pas se dire qu'on est gagnant. C'est pas vrai. Et d'ailleurs, c'est pas juste les occupants du Colisée de Roubaix qui disent ça, c'est nationalement, tous les occupants sont d'accord avec ça. Voilà. Donc, c'est pas juste, bon, bah, ça y est, vous avez eu ce que vous voulez, maintenant, vous pouvez partir. Non. Nous n'avons pas eu ce qu'on voulait.
Derrière cette question d'occupation qui est portée par le milieu culturel, c'est avant tout une question de société. On veut bien faire du spectacle vivant, mais dans quelle scène, dans quelle économie, dans quel modèle social est-ce que ça a encore un sens de faire du spectacle, que les artistes soient des miroirs du monde, soient là pour faire bouger les lignes dans une société où les acquis fondamentaux, le chômage, la retraite et la sécurité sociale sont en danger? Est-ce qu'on peut continuer à faire de la culture comme si de rien n'était, faire le miroir de société? Enfin, on devient complètement schizophrène, quoi. C'est plus possible. Donc, non, tant que la réforme d'assurance chômage qui va mettre tellement de personnes en précarité, dans la misère, dans une période inédite, tant que cette réforme n'est pas abrogée, il est logique qu'on soit là. Et quand je dis « on », ce n'est pas seulement des gens, des intermittents, des intermittentes, il y a des tas de métiers autour de nous, des étudiants, des étudiantes, des chômeuses, des précaires, des couturières, des métalleux. Enfin voilà, dans toute la France, c'est tous les corps de métier qui sont présents. 3h-3. Je sais pas si vous avez des questions pendant qu'on est là.
N'hésitez pas à prendre tous une chaise et à vous asseoir.
Ouais. Julien.
Oui, moi je voulais juste savoir, en gros, là, en termes d'informations sur de la part du théâtre ou de la mairie, quelles informations vous ont été données à l'heure actuelle sur ce que eux ont prévu aujourd'hui, sur ce que eux ont décidé?
Ils ont décidé.
Et par quel canot?
Oui, c'est ça.
On ne sait pas.
On ne sait pas. Ils ont décidé de nous demander de partir. Point. Est-ce qu'ils pensent qu'il suffit de nous demander de partir pour qu'on le fasse? Et un des arguments qui nous est opposé par rapport à la mairie, c'est le fait que les bâtiments municipaux ne seraient pas là pour recevoir des messages politiques. Et c'est là où cette banderole hashtag nous est reprochée. Comme si l'art n'était pas politique, comme si ce mouvement n'était pas politique. Voilà, fin de la parenthèse.
Et c'est là-dessus où je voudrais en venir aussi, c'est que jusqu'à maintenant, on a été en relation avec la direction, et je pense que la direction a eu aussi des choses qui lui sont tombées dessus de plus haut. Et du coup, nous, on est prêts à passer la direction pour aussi enlever ce poids à la direction, pour discuter avec les gens au-dessus, pour aller directement avec eux, en fait. On veut une explication. En fait, on veut juste s'expliquer. On veut pas qu'on nous dise « sortez ». Mais non, en fait, on est ouvert à la discussion. Discutons. On est là pour ça. C'est le but du mouvement, quand même. C'est que on est là pour discuter.
Aujourd'hui, est-ce que vous avez des informations sur le programme de reprise prévu par le Colisée? Est-ce qu'il y a beaucoup de spectacles prévus. Et quelle sera la jauge de ces spectacles ?
Eh ben, je pense que, bon, déjà, il y a 4 spectacles jusqu'à la fin de la saison. Après, il y a la fermeture annuelle en juillet. Donc, on sait qu'en dans tous les cas, ici, en juillet, c'est fermé. Il y a 4 spectacles. Je pense que la jauge, ça doit être 35...
800 places avec un dispositif d'aide à la billetterie. Voilà.
Et pour ce qui se passe ici, dehors, les gens attendent dans un serpentin. On ouvre les portes, les billets sont scannés et ils foncent directement dans la salle, à leur place. Et à la fin, pareil, ils sortent. Il n'y a pas de bar. Du coup, il n'y a pas de squattage de gens ici, en plein milieu. Donc, c'est vraiment, ça circule beaucoup. Donc, nous, dans l'idée, ce qu'on voulait faire à la base, c'était informer les gens en extérieur, parce que du coup, c'est là où ils vont devoir patienter. Et du coup, on pourra leur les tracter ou faire des choses artistiques ou tester des choses. On n'avait pas forcément décidé de ce qu'on allait faire. Et peut-être, dans un autre cas aussi, voir avec les spectacles qui jouent ici, de discuter avec eux, de savoir s'ils étaient d'accord pour que, avant leur spectacle, on aille faire un mot avec aucun venin dans ce mot, parce que c'est pas du tout notre volonté, d'expliquer pourquoi nous sommes là. En fait, pourquoi ils ont vu des affiches, pourquoi il y a eu des gens qui occupent le lieu, juste histoire d'informer les gens. Voilà.
Y a-t-il un message clair au niveau national, dans la mesure où les expulsions vont se multiplier, soyons lucides, sur une nécessité de cohabitation pacifique, de la lutte pour ce monde meilleur et de la réouverture des salles? Est-ce qu'il y a un message clair au niveau national de tous les théâtres, oui ou non?
Il y a un message de la coordination des théâtres occupés. Mais du coup, cette coordination, ce sont des gens qui sont nomades par essence. Et puis, il y a des messages clairs de directeurs, directrices de lieux qui se positionnent, soit comme c'est le cas à l'Odéon, à la Criée, en disant, bah, vous avez gagné, on peut reprendre, c'est la culture, soit en disant, non, effectivement, il est de notre devoir de faire preuve de courage et d'accepter les occupations et de cohabiter le temps de créer quelque chose de nouveau. Donc il y a vraiment deux prises de position très, très distinctes. Étant entendu que nous aussi, à l'intérieur du mouvement de la coordination nationale, chaque lieu a son ADN. Il y a des lieux qui sont où il n'y a quasiment pas d'intermittents. Au Chanel, à Calais, ils sont une équipe qui tourne, ils sont une dizaine, une douzaine en permanence. Il y a 2 intermittents dans l'équipe. Il y a des endroits où il y a beaucoup d'étudiants. À Douai, c'est un mouvement essentiellement étudiant. Merci d'être là. Mais on est tous dans cette coordination nationale avec cette revendication première.
Et comment se positionnent les permanents, les autres salariés en fait du Colisée de Roubaix, que ce soit le personnel administratif ou technique? Est-ce que vous les sentez solidaires actuellement de votre occupation?
Moi, je pense qu'on peut pas forcément leur lancer la pierre. Je pense qu'ils sont plutôt solidaires du mouvement. C'est des discussions qu'on a eues avec eux tout à l'heure, où ils sont plutôt d'accord, mais ils sont aussi à cheval sur le fait que ça reprend et que du coup, le directeur demande de reprendre le travail et du coup d'exécuter certaines choses. Et du coup, ils doivent le faire aussi. Donc, c'est un peu compliqué, je pense. Voilà. Après, ça reste du parti pris de chacun, et puis il y a aussi les difficultés financières de chacun. Bon, voilà, il y a aussi plein de problèmes qui sont pareil, quoi, qui sont tous en avant, quoi.
Mais pour avoir discuté avec certaines personnes, elles sont assez tristes de ce qui se passe, parce que jusqu'à présent la cohabitation c'était passé au mieux, sachant qu'en plus pendant l'occupation on a cohabité avec une équipe de cinéma, avec un tournage cinéma. Donc là, si on avait voulu être crétin et bloqué, on aurait pu le faire. Pour vous dire la vérité, même l'équipe de cinéma, l'équipe de tournage a été surprise qu'on les emmerde pas plus, quoi. On est allé occuper les locaux des Ballets du Nord à l'étage. On les a rencontrés régulièrement. On a été toujours dans l'échange. Donc, toute l'équipe du lieu savait qu'on était dans ces dispositions-là. Il n'y avait pas de raison que du jour au lendemain, on se transforme en hooligan. Donc, ce qui nous a été témoigné, c'est une grande tristesse de comment les choses évoluent et se déroulent là, tout de suite.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler les conditions dans lesquelles vous occupez le lieu ? Depuis 2 mois, vous êtes combien à dormir le soir ? C'est quoi la charge, entre guillemets, pour le Colisée de vous accueillir ?
Vas-y, Swan.
On est une équipe d'une quinzaine d'occupants et occupantes à se relayer. On est en moyenne 6 à 8 la journée, parfois moins, parce que enfin voilà, il y a aussi du boulot qui tombe. Et la nuit, on est 2 personnes. 2 personnes. Voilà. On est peu nombreux, mais... Mais on est là, et puis avec les conditions aussi d'occupation, c'est des rendez-vous réguliers avec le quartier. Ça nous tient très à cœur. Dès le début de l'occupation, les portes étaient ouvertes. Il y a eu beaucoup de gens du quartier qui sont venus nous demander « Vous êtes quoi ? Vous êtes qui ? Oh, c'est chouette de rentrer là, j'avais jamais eu l'occasion avant. » Des temps d'agora aussi avec les gens du quartier sur... d'intelligence collective, parler de culture, de qu'est-ce qui est essentiel, chacun avec son expérience.
Premier gros événement jeudi.
Ouais, un beau marathon de la danse jeudi dernier où on a dansé de 6h à 19h, où il y a eu des danseurs, danseuses des Ballets du Nord, des musiciens, des tous les copains, copines, musiciens, musiciennes de Lille qui sont venus faire de la musique de 6h à 19h. Des gens du quartier, les grands-pères qui nous regardaient là, les jeunes qui passaient regarder le spectacle en drive-in dans leur BM. Voilà, ça a été un très très beau mouvement, un très beau moment dans le quartier aussi. Voilà, c'est nous jusqu'à présent, l'occupation, c'est ça, c'est ces occasions de faire le lien entre la culture, le quartier, sensibiliser sur cette question de la réforme d'assurance chômage et dans quelle société on veut faire de la culture et du spectacle vivant.
Qui revient plus. Je me souviens tout au début des occupations. Il y a un mot qui revenait souvent, tu m'avais dit, c'était invité. Nous sommes invités. Apparemment, il est disparu ce mot. Il est où ?
Invité ?
Oui. Puisqu'on occupait dans des conditions où on nous avait invités à venir pour occuper correctement, que ce n'est pas de problème, pas de dispute. Ce mot-là a disparu en fait, il n'y est plus. On a les archives dans la radio.
Ah oui, bah, je me doute. Si tu le dis, bah, écoute, c'est certainement qu'on se devait se sentir tellement bien au début qu'on a dû se sentir comme invité.
Ouais, c'est peut-être à moi de prendre la parole maintenant, parce que c'est moi qui ai lancé l'invitation.
Ah oui, c'est vrai. Oui, tout à fait.
Je suis Bertrand, je suis directeur de ce théâtre. Et donc, merci d'être venus nombreux, c'est sympa. Ça fait plaisir de revoir un peu de public dans notre théâtre. Voilà, donc pour ceux que je ne connais pas, Bertrand Millet. Tu permets, Swan, que je... Voilà. Donc c'est moi qui viens vous mettre dehors. Ah, c'est moi le super méchant aujourd'hui. Si vous vouliez vous confronter aux forces de l'ordre, vous voyez, je ne suis pas très costaud, donc allez-y, mollo. Hein. Mais je ne suis pas votre ennemi, moi. Si vous parlez d'invitation, le terme, il est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas... ceux d'entre vous qui sont venus voir le premier jour, comment ça s'est passé? Ils sont montés dans mon bureau, on a dû se prendre un café ensemble. C'est des gens que j'apprécie, avec lesquels je travaille depuis longtemps. J'ai été touché par leur situation. Je connais leur précarité. Donc évidemment, on a dit, bien sûr, venez. Le Colisée, c'est pas rien, quoi. Le Colisée, vous voyez où on est à l'épaule? Vous connaissez ce quartier? C'est pas évident de faire fonctionner un théâtre à Roubaix, 100 000 habitants, une des villes les plus pauvres de France. Tout le monde le sait, ça. Hein. Et pourtant, c'est une salle qui marche, parce qu'il y a des équipes volontaires, il y a des gens enthousiastes, il y a des intermittents qui viennent, nombreux, on leur fait confiance, et on les appuie. Donc quand ils sont venus nous voir, on a dit, évidemment, venez, le Colisée, on est avec vous, et on vous ouvre les portes. Il y a eu des théâtres occupés, où ça s'est pas bien passé avec les directions, ils ont dit on n'accède pas aux loges, on va pas dans les douches, on fait pas ci, on fait pas ça. On n'a pas été dans cet état d'esprit. On a été accueillant, positif. Et ça s'est bien passé. 2 mois qui se sont bien passés, il faut le dire. Ils n'ont pas bloqué le tournage. Pour nous, c'était essentiel de l'accueillir. On est en catastrophe financière, le Colisée. En catastrophe financière. C'était important pour nous de pouvoir accueillir le tournage de ce téléfilm. Ça s'est bien passé. Merci aux occupants. On n'a eu aucune dégradation. Voilà, ça s'est passé en bonne intelligence de ce point de vue-là. Merci les occupants. Pas de problème. OK. On était parti sur des revendications à caractère culturel. À caractère culturel. Les premières expressions, c'était ça. Des questions de poursuite du régime de l'intermittence. Comment les jeunes y font pour entrer dans l'intermittence, sachant qu'ils ne pourront jamais faire le nombre d'heures nécessaires. Des questions de baisse de revenus des artistes et des techniciens. C'était ces questions-là qui étaient au départ prégnantes et pour lesquelles on était évidemment partie prenante. Et puis, la réouverture des lieux culturels, des lieux considérés comme non essentiels, et pour lesquels, évidemment, ça nous a hérissé le poil immédiatement. Pourquoi nous devions rester fermés, sans activité, d'autres ouvraient, alors qu'on avait des protocoles sanitaires hyper réglés, du public à distance, etc., etc. Je reviens pas là-dessus, tout le monde a connu ça. Donc, évidemment, on a fait bon accueil, et le dialogue qui s'est noué avec les habitants, tout ce qui a été fait par les occupants, nous a paru vraiment aller dans le bon sens. Les choses, elles sont un peu différentes aujourd'hui, et il faut le comprendre. Je voudrais, puisque vous me laissez gentiment m'exprimer, je voudrais vous lire un communiqué de presse qui émane des 4 plus grosses organisations d'employeurs du spectacle vivant, c'est-à-dire les forces musicales, le Syndéac, le SNSP, Syndicat National des Scènes Publiques, auquel le Colisée est adhérent, et puis Profidim. Force musicale, Profidim, SNSP, Syndéac. Ça représente des centaines, il y a déjà 300 au niveau du SNSP, mais c'est des centaines de maisons, de théâtres, ou de compagnies, ou d'ensembles musicaux, etc. Donc je vais vous en donner une lecture rapide. Le Conseil national des professions du spectacle, CNPS, s'est enfin réuni le 11 mai dernier sous sa forme plénière, présidée par la ministre de la Culture en présence de la ministre du Travail. Nous notons avec satisfaction la reprise des activités artistiques et culturelles, et notamment le fait que tous les établissements culturels ouvriront en même temps. Nous saluons le principe fort qui en découle. Depuis la jurisprudence du Conseil d'État, nos établissements ne pourront plus jamais fermer, hors confinement généralisé. Plusieurs sujets demeurent, sur lesquels nous avons attiré l'attention de la ministre, notamment les événements dans l'espace public, incompatibles avec la notion de jauge, et les festivals qui ont besoin d'une clarification urgente des conditions dans lesquelles ils vont pouvoir se dérouler, en évitant le risque des décisions isolées, soumises à la seule appréciation des préfets. Enfin, la mise en place généralisée du pass sanitaire à partir de 1000 pose encore de nombreuses questions. Les premières annonces concernant le soutien à l'emploi constituent des premiers signes positifs d'une volonté de répondre au désarroi social qui découle de l'arrêt de nos activités. Nous attendons des précisions et serons attentifs à la mise en œuvre effective. Mais à ce jour, nous ne pouvons qu'être sceptiques sur les leviers mis en place pour remobiliser de l'emploi, notamment artistique. L'insertion des jeunes nécessite encore plus de volontarisme et notamment l'adaptation réelle du plan « Un jeune, une solution » aux spécificités de l'emploi culturel. Sur les suites de l'année blanche, l'essentiel semble acquis avec la prolongation de 4 mois supplémentaires renforcée par l'application des filets de sécurité pendant 1 an encore, même si un doute demeure sur les effets de bord de ces annonces pour les salariés et sur le financement de ces mesures pour les employeurs. Nous resterons cependant fortement mobilisés autour de 2 points de vigilance. Le principe d'une clause de revoyure permettant d'évaluer les conditions de la reprise sur le sort des artistes et techniciens, l'attention portée pour que les 3 leviers des filets de sécurité soient actionnés au bon niveau. Date anniversaire à bien positionner, aménagement de la clause de rattrapage, attention à porter au niveau des heures non utilisées sur la période de référence allongée. Au-delà de ces annonces, il s'agit désormais de nous tourner vers l'avenir et de sortir du court-termisme de l'année écoulée. Nous sommes parfaitement conscients de la fragilité de la reprise qui s'ouvre devant nous. Et il est nécessaire que le gouvernement et les collectivités fassent tout pour que personne ne soit oublié. Il convient de rappeler ici combien nos structures, festivals, lieux et équipes artistiques ont été volontaristes pour maintenir ce qui pouvait l'être, et notamment dans le domaine de l'emploi et du service public de la culture. Pour préserver au maximum la vitalité de notre création artistique et des emplois qui y contribuent. Les équipes artistiques et techniques de nos structures souhaitent plus que tout prendre le chemin de la réouverture et reprendre une activité normale. Nous souhaitons tous assurer la continuité de nos missions de service public, relancer l'emploi dans le secteur et assurer la pérennité de nos organismes sociaux. J'ai bientôt fini. C'est pourquoi il est nécessaire de mobiliser toute notre énergie dans cette direction, dans le dialogue et le respect de tous les professionnels, afin de pouvoir accueillir le public dans les lieux de culture le 19 mai prochain, c'est-à-dire demain, et pour le Colisée, le 20 mai. Certaines occupations de lieux culturels et déclarations des occupants créent une division inutile au sein d'une profession meurtrie par plus d'un an d'arrêt. Bien que les enjeux de la sortie de crise soient nombreux, et si certaines questions portées par les occupations, notamment sur la question de l'assurance chômage, traduisent la profonde détresse qui traverse le corps social aujourd'hui, nos syndicats rappellent leur attachement au respect du cadre de négociation fixé entre les partenaires sociaux et l'État, que ce soit au niveau des branches ou de l'interprofessionnel. Chacun doit jouer son rôle. Nos syndicats restent ouverts au débat autour de nos accords et désaccords, en particulier avec nos partenaires salariés, qui doit intervenir dans un cadre respectueux. Le service public de l'art et de la culture est précieux. Il ne peut que s'affaiblir des divisions qui pointent aujourd'hui. Donc, j'achève là la lecture de ce communiqué. Retenez bien la fin. C'est au sein des syndicats que les choses doivent être discutées. Et étant donné que les sujets de discussion maintenant et les revendications ne portent plus ou à peine sur le champ culturel, ce n'est pas au sein du Colisée, bâtiment public, bâtiment municipal, bâtiment culturel, que ces choses-là doivent être portées. Et c'est la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, je vous remercie de sortir. C'est moi qui opère l'évacuation.
Ce que je voudrais dire, c'est que je salue la lutte des intermittents de Roubaix qui, depuis 2 mois, occupent le Colisée. Et ils méritent qu'on les applaudisse. Tout ce qui... Je salue votre esprit de responsabilité. Votre esprit de responsabilité par rapport à ce magnifique équipement que j'aime autant que vous, monsieur le directeur. Et j'ai vécu dans ce lieu, grâce aux intermittents en lutte, grâce aux artistes en lutte, des moments merveilleux d'échanges, de rencontres dans ce quartier de Roubaix, un peu déshérité. Donc, ça je tenais à le dire. Après, effectivement, c'est un outil de travail. Je suis syndicaliste à la CGT, on a l'habitude de protéger les outils de travail. Il ne faut pas l'abîmer. Après, bon, aujourd'hui, le directeur veut évacuer. Bon, comment dirais-je ? Ce qu'il faut, c'est que la lutte se poursuive. La lutte n'est pas finie. Ce qui nous rassemble ici, c'est notre opposition fondamentale à la réforme de l'indemnité chômage, vous le savez très bien. Cette politique monstrueuse que nous rejetons tous et qui fait que nous sommes ici. Donc, ce qu'il faut, de mon point de vue, c'est imaginer une poursuite du mouvement sous d'autres formes pour le développer aussi. Parce qu'il faut être lucide aussi. Hein. On est combien dans cette salle ? Camarade, tu as dit tout à l'heure combien vous étiez à occuper le soir. La réalité sociale dans ce pays, la réalité des luttes, c'est qu'il y a une dizaine d'intermittents depuis 2 mois qui se bagarrent ici, et puis des gens à côté qui travaillent. Ils ont de la sympathie, mais pour se bouger le cul et pour rentrer dans la lutte, ils n'y sont pas. Eh bien ça, je suis désolé, faut faire avec. Hein. Donc la lutte, il faut la poursuivre, il faut la développer, il faut l'amplifier. Ça, évidemment, le fait qu'il faille quitter les lieux, c'est pas un cadeau. Mais bon, j'imagine que vous n'êtes pas seul à décider. Comment dirais-je, il y a une municipalité qui a la couleur qu'elle a. Hein. Et on peut imaginer que vous laissiez une municipalité progressiste, je pense qu'elle laisserait un espace pour les intermittents en lutte. Bon, ici, la municipalité, elle gignette, allez, vous avez eu 4 mois de prolongement dégagé. Bon, c'est comme ça. Après, moi, ce qui m'intéresse, enfin, d'abord, je voulais saluer ce que vous avez fait, encore une fois. C'est formidable, hein, c'est avec les syndicats et tout. Si, c'est très bien. Et puis là, on expérimente quelque chose, on vit quelque chose, on vit des luttes. Dans ce pays où actuellement l'extrême droite, où il n'y a plus que du racisme, des conneries comme ça, ici, on a entendu autre chose, il y a une autre musique et tout. Et ça, c'était sympa. Et moi, j'ai envie que ça continue d'exister. Alors, ça va être...
Vous avez, à juste titre, rappelé à quel endroit se trouvait le Colisée ? Dans un quartier populaire, dans une ville populaire, dans une ville qui est confrontée à la pauvreté. Et alors, on est en désaccord sur le fait que vous considériez que pour le milieu de la culture, ce soit réglé. Mais sur l'autre aspect de votre discours, j'ai une question à vous poser. Est-ce que ça ne vous semble pas nécessaire que des artistes qui sont ici à Roubaix, justement, considèrent que leur lutte ne peut pas être que la lutte du monde de la culture et qu'il est de leur responsabilité ici à Roubaix justement aussi de porter la lutte collective sur cette question de l'assurance chômage? Est-ce que c'est pas justement l'honneur de la culture que de ne pas être enfermée sur elle-même?
Alors, oui, alors l'honneur, c'est pas de m'appeler en permanence en numéro masqué pour m'insulter, hein, ce qui est le cas depuis 11h ce matin. Donc sur vos réseaux sociaux, voilà, vous pouviez éviter de donner mon téléphone pour que je sois appelé quand je déjeune avec ma femme, ça serait super sympa, merci. Je vais vous répondre, monsieur, parce que c'est non-stop depuis ce matin, enfin depuis que je suis passé. Alors... évidemment, la culture, elle doit être ouverte sur une ville, spécifiquement dans une ville comme ça, dans un quartier comme ça. C'est pas rien de diriger un théâtre dans ce quartier-là. C'est ce que j'ai essayé de vous dire tout à l'heure, et j'en suis parfaitement conscient. Le Colisée, ça fait 16 ans maintenant que je le dirige, et puis ça fait 20 ans presque que j'habite à Roubaix, donc je commence quand même à connaître un peu le quartier et ce qui s'y passe. Bon, je ne sais pas qui c'est, mais il est vraiment collant. Croyez que vraiment on a une attention et une proximité et vraiment une volonté d'être ouvert et de ne pas être replié sur nous-mêmes. C'est vrai que le Colisée, c'est un lieu qui marche. On fait plus de 100 000 entrées par an, 120 000. C'était notre projet l'année dernière. On a été un peu interrompu en... Ça me m'énerve, ça. Je le sens. C'est un lieu qui marche. Mais je peux vous dire qu'au Colisée, il y a toutes les populations qui viennent ici. Toutes les populations. Et il y a des politiques tarifaires. Vous pouvez venir voir n'importe quel spectacle à 8 euros, mais des grosses vedettes ou n'importe qui. Donc franchement, on est très attentif à être accessible. On est le premier lieu culturel en termes d'accueil de chèques crédit loisirs. Je ne sais pas si vous connaissez ce dispositif mis en place par les missions locales. Les gens, ils payent 1 euro leur place. Vous donnez un ou deux chèques ici, et pour donc prix de revient 1 ou 2 euros, vous venez voir, Muriel Robin, ou des spectacles qui valent extrêmement cher à produire. Donc on est vraiment dans la logique d'essayer d'être en proximité, avec évidemment toutes les difficultés d'équilibrer un budget, d'arriver à fonctionner, d'arriver à être un lieu quand même propre, accueillant. On a vraiment une attention à tout ça. Et voilà, je peux vous dire qu'on n'est pas sur une autre planète, quoi. Moi, je vis à Roubaix, j'habite à 5 minutes d'ici. Voilà, je ne suis pas un extraterrestre, hein, ici. Donc je fais attention aux gens. Et la culture, moi, je tiens à ce qu'elle soit à portée de tous. Voilà. Alors, il se trouve que le lieu, il est beau, il est classe, tout ça. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui se disent toujours « c'est trop lumineux pour moi, c'est trop doré, c'est trop... » Oui, bah oui, le lieu, il est comme ça. Hein, on va pas le... Mais franchement, ce qu'on y fait, je peux vous dire, et mon équipe, elle est majoritairement, elle est roubaisienne. Hein. Il y a des gens ici, ils sont nés là, on est attentif à notre environnement. Voilà. On n'est pas des extraterrestres et on n'est pas un château fort, ça c'est sûr.
Rappelez que, moi j'entends bien, que du coup, il n'y a qu'une partie des revendications qui a été entendue ou prise en compte, de la même façon que la mairie de Roubaix a voté à l'unanimité une motion de soutien au mouvement d'occupation concernant l'année blanche et je ne sais plus quelle. Enfin, pour moi, c'est tellement l'assurance que. Et la réouverture des salles. Or, on n'a jamais demandé la réouverture. Enfin, voilà, juste. On était bien d'accord qu'on ne demandait pas la réouverture des salles. On sait très bien qu'il y avait un calendrier, qu'on est en pandémie, que la réouverture des salles ne dépendait pas de nous. Et on n'a jamais triché sur la première des revendications qui était l'abrogation de la réforme d'assurance chômage, de la même façon que l'année blanche supplémentaire, on la demandait pour tous les intermittentes de l'emploi et pas seulement du spectacle. Alors je comprends vraiment ta position, c'est normal. Et puis celle des directeurs de théâtre qui se disent, voilà, 4 mois de plus pour les intermittents du spectacle, ben voilà pourquoi ils se plaignent. Mais nous, on demande les mêmes droits pour tous les précaires de l'emploi intermittent du spectacle ou pas du spectacle. Et je voudrais passer la parole à Virginie, parce qu'il y a eu un communiqué de presse.
Oui, en fait, il n'y a pas d'ennemis ici. Hein, et ce que vous avez lu sur les directions de spectacle, il y a différentes positions dans toute la France et des réouvertures qui se font avec des gens du même mouvement, en coexistence pacifique, pour informer le public de ce qui se passe, notamment. Et je voudrais juste vous lire une publication d'un de vos confrères, David Bobet, à Lille, qui a écrit le texte suivant. « Les occupantes et occupants sont celles et ceux qui font vivre les théâtres. Sortir les gens qui font l'art des lieux d'art, ce n'est pas possible, tant que la création elle-même n'est pas empêchée. » Et tout le monde ici est d'accord là-dessus. « Les intermittents ne se battent pas seulement pour leur propre secteur, mais pour le bien commun, afin que les acquis sociaux ne reculent pas. Le théâtre lui-même ne parle pas que du théâtre, mais touche aux enjeux de la vie et de la société. » Il est naturel que des luttes collectives puissent naître depuis un plateau. Cette réforme du chômage est programmée après une année de crise des Gilets jaunes, suivie d'une année de crise sanitaire, sociale, économique et psychique. Je ne comprends pas l'opportunité du calendrier. Je ne comprends pas l'opportunité de cracher maintenant sur celles et ceux qui sont déjà à terre, au même moment où cette pandémie nous appelle à l'unité. Je suis pleinement solidaire de ce mouvement des occupants du théâtre, et tant mieux si le public voit ça. Donc, vous exprimez votre préoccupation à l'égard du public roubaisien, et au-delà de Roubaix, puisqu'il n'y a pas que les roubaisiens qui viennent au Colisée. Eh bien, tant mieux s'ils voient des spectacles, et tant mieux s'ils entendent aussi une autre voix. Les théâtres ont toujours été des agoras dans l'histoire. Il n'y a pas de raison qu'elles ne le soient plus.
Avec les occupants d'ici, et or vous demandez quand même à l'expulsion de ces occupants, or qu'ils ne sont pas tellement aussi gênants que ça pour l'entrée de vos spectacles. Est-ce que cette décision vient vraiment de vous ou de la mairie?
Pour une fois, je vais être d'accord avec monsieur là-bas. Encore. Je dis pour une fois, on ne s'est pas beaucoup parlé. En tout cas, je suis d'accord avec ce que vous avez exprimé tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas le seul à décider. Ça, c'est sûr. On est dans un équipement public, un théâtre municipal. Hein, donc, voilà, avec tout ce que ça suppose, il y a une ville autour, il y a des élus municipaux qui sont décisionnaires. C'est eux qui ont la responsabilité d'un lieu comme ça. Voilà. Moi, c'est moi qui le fais fonctionner. Mais enfin, je ne suis pas le seul décisionnaire, c'est évident. C'est pour ça que l'expression, c'est l'autre point, voilà, que vous avez dit tout à l'heure, l'expression des revendications du mouvement actuellement, elles ont largement quitté le champ culturel. Et Swan, excuse-moi, mais moi, je ne suis pas tout à fait en phase avec ce que tu as dit. C'est-à-dire que franchement, le premier message était culturel. Effectivement, très peu de temps après, il y a eu l'expression, la revendication en tout cas de l'annulation de la réforme de l'assurance chômage. Mais enfin, ce qui a été dit au sein du conseil municipal, ici au conseil d'administration, c'est le soutien aux mesures qui traitent du culturel. Et dès lors qu'on est vraiment sur un champ politique qui est hors culturel, le théâtre n'est pas le lieu d'expression de ces revendications. C'est pour ça que il y a d'autres lieux d'expression. Hein. Il y a des urnes, il y a des syndicats, il y a des partis politiques, il y a des endroits où il faut exprimer cette colère, exprimer les revendications. Le Colisée, non. C'est comme si vous alliez, je sais pas, en ce moment, vous voyez ce qui se passe entre la Palestine et Israël. On peut avoir des opinions là-dessus, quand même. Eh bien, est-ce qu'on mettrait sur un lycée des... Vous voyez, moi... Enfin, une expulsion, écoutez, voilà, l'expulsion, c'est moi, je vous demande de sortir, vous voyez, comme... Moi, je suis adhérent d'un syndicat, je vous ai lu le communiqué tout à l'heure, je suis adhérent d'un syndicat.
Même si c'était pas très clair au départ sur les revendications qu'on était contre la réforme d'assurance chômage, à partir du moment où vous l'avez publié sur le site internet du Colisée, vous l'avez lu, et du coup ça veut dire que vous étiez d'accord.
On s'est fait le relais pour...
Bah oui, mais vous avez fait un relais, mais on fait pas un relais si on n'est pas d'accord.
On a relayé vos revendications, hein. Ça veut dire que moi je peux avoir aussi ma conviction profonde, mais je peux aussi penser que si ces revendications elles sont légitimes, elles sont fondées, ça n'est pas le lieu où il faut les exprimer. Voilà, c'est ça je crois hein, principalement notre désaccord. Moi je suis un citoyen comme vous, je vote, je suis dans un syndicat, même si c'est un syndicat d'employeurs, le Colisée c'est pas l'endroit pour faire ça, voilà. Moi, alors...
Vous nous avez donné l'avis du MEDEF, hein, je suis désolé, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, les syndicats patronaux, ça s'appelle le MEDEF. C'est très bien ce que vous êtes sur un rôle spécifique. Ici, ce qui se passe, ce sont les gens qui se mobilisent par rapport à la situation sociale de ce pays. Dans ce pays, et c'est ce qui se passe à la mairie actuellement, vous avez les gens qui sont en situation de précarité, on arrête les contrats de personnel en situation de, non pas de CDI et de du statut de la fonction publique territoriale, on les arrête, on fait en sorte que les gens maintenant soient sur des contrats en situation de précarité. Ça, c'est une des situations. La situation qui est vécue par l'ensemble des intermittents, et vous le savez puisque vous êtes employeur, la situation vécue par les intermittents, ça fait des années que le statut est cassé par le MEDEF. Auparavant, ça s'appelait le CNPF, je le rappelle. Voilà. Vous voyez, ici, on est à Troyes, on s'est battu en 2007, avec les gens qui étaient de l'immigration, sur leur statut, les gens étaient sans papiers. Peut-être qu'aujourd'hui, la plupart ont des papiers. Mais on était déjà sur une lutte qui englobait non pas seulement les gens d'un secteur spécifique, mais l'ensemble du secteur de ce pays, des situations de précarité. Et aujourd'hui, si nous sommes là, non pas les supporters, parce que nous ne sommes pas des supporters, mais des résistants à cette société inégalitaire et qui continue l'inégalité. Et donc voilà, vous nous avez donné le discours du MEDEF. Désolé, même si vous n'y êtes pas, vous, c'est le discours. Écoutez, le discours avec Madame Bachelot, ça nous fait quand même sérieusement marrer. Hein. Madame Bachelot, c'est comme celle qui nous a expliqué il y a quelques années que le nucléaire ne polluait pas. Ah bon, c'est tout nouveau. Vous voyez ? Bon, donc voilà. Maintenant, moi, ma réaction, c'est de dire merci, monsieur. Et l'ensemble des gens qui sont ici vont décider de ce qui va se passer. Et si possible, moi, je demanderai à ce que vous ne soyez pas là. Parce que tout simplement, vous êtes le directeur de l'établissement, mais vous n'êtes pas participant à cette lutte sociale et cette lutte qui fait en sorte que l'ensemble des gens de ce quartier en situation de précarité et pauvreté sont venus soutenir ici. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire en tant que personne et soutien.
Je vais apporter une précision. Voilà, juste une précision, le SNSP est un syndicat d'employeurs absolument pas adhérent au MEDEF. Et je peux vous dire... Non, pas du tout. Alors ça, vous vérifierez. Syndicat national des scènes publiques, c'est pas du tout le MEDEF. Hein.
Je voudrais revenir sur le communiqué que vous avez lu. En vérité, quand on écoute bien ce communiqué, trois quarts de la première partie expriment les vives inquiétudes des employeurs du spectacle, et pas seulement en raison de la chose sanitaire. C'est-à-dire que les inquiétudes sont beaucoup plus profondes par rapport à l'économie de la culture dans notre pays. Ça, c'est clair dans ce texte. Donc, moi, je suis tenté de me dire que vous avez ici un mouvement qui est responsable, qui ne bloquera absolument aucun spectacle, qui n'empêchera personne de travailler, mais qui, en quelque sorte, soutient ces revendications qui sont exprimées dans la première partie de ce communiqué. Donc, en fait, c'est un effort de concevoir pour vous-même et pour votre équipe qu'en fait, ces gens-là vous soutiennent. Ils vous soutiennent, pas personnellement, naturellement, mais en tant que représentant d'une activité culturelle majeure. C'est ça, vous partez sur un faux divorce. En vérité, relisez bien les trois quarts du communiqué que vous nous avez lu. C'est très intéressant, vous avez bien fait de nous le lire, parce que, encore une fois, c'est ces inquiétudes-là qui justifient la mobilisation actuelle des acteurs du spectacle. Voyez.
Moi, je pense que finalement, la position que vous avez de vouloir nous expulser, c'est pour des raisons d'opportunité, mais finalement, vous savez bien qu'on a raison.
Et moi,
Laissez-nous rester ici.
Je voudrais me permettre de soutenir encore le point qui a été évoqué par M. Mirek ici.
Vous avez parlé des syndicats d'employeurs dont vous nous avez lu le communiqué. Souvent, vous avez utilisé ces mots. Nous avons soutenu, nous avons été solidaires de ce mouvement d'occupation. Mais l'inverse est vrai. Ça a bien été une alliance de circonstances, une alliance essentielle entre les employeurs, direction de théâtre, et des occupants, pour porter ces mêmes revendications de réouverture. Je vous rappelle qu'il y a eu, en début mars dernier, une table ronde au Sénat sur la réouverture des salles de spectacle. Cette table ronde a très peu tourné. Les vidéos de ces échanges ont été très peu communiquées et partagées. Il y avait notamment un point sanitaire tenu par le professeur Flao, qui était donc le conseiller de cette table ronde et qui faisait des prescriptions pour la réouverture. Nous rappelons que parmi les revendications des occupants, il y a la réouverture dans des conditions sanitaires adéquates et réalistes pour les salles. Parmi ces prescriptions, le professeur Flao recommandait notamment la mise en place d'un plan ventilation massif à l'intérieur des salles de spectacle, en expliquant que si à un moment donné la pandémie pouvait connaître une phase de creux, elle pouvait également remonter, ou encore on pourrait voir dans les années qui viennent de nouveaux virus et se retrouver confronté au même problème, au même confinement, à la même fermeture de nos salles, puisque nos salles sont les premières fermées quand il y a un souci sanitaire aujourd'hui dans ce pays. Les syndicats employeurs que vous aviez mentionnés, alors qu'ils étaient présents à la table, n'ont en aucun cas et à aucun moment répercuté cette revendication auprès du gouvernement. Nous avons besoin d'aide pour mettre en place des systèmes de ventilation qui nous permettront d'ouvrir de façon pérenne. Je ne sais pas si vous étiez au courant de cette revendication. Je ne sais pas si vos syndicats employeurs se sont donné la peine de communiquer vis-à-vis des directeurs de salle sur cette question. Mais une des craintes qu'on peut tous avoir ici, c'est qu'au retour du mauvais temps, au retour de l'hiver, avec les variants, la situation épidémique reprenne et de nouveau cette salle sera fermée. Comment alors pourrez-vous vous appuyer sur vos alliés d'hier si vous les avez expulsés ? Est-ce que vous êtes si sûr aujourd'hui de cette réouverture qu'on vous propose à 30% de jauge, soumis à un arbitraire sanitaire dont on mesure tous aujourd'hui le caractère chaotique, imprévisible ? Est-ce que vous êtes si sûr de votre réouverture que vous allez dégager vos seuls alliés dans la place?
C'est vrai que ce communiqué il traite de la fragilité de notre secteur, des points d'interrogation qui sont devant nous. On ne sait pas du tout quelle va être la réaction du public. Nous, une salle comme le Colisée, elle fonctionne parce qu'elle est pleine. Ce n'est pas les subventions publiques qui la font fonctionner, ou en tout cas, la part, elle est très faible. Elle fonctionne parce qu'il y a des gens qui viennent ici et qui prennent leur place et que la salle est pleine en 1700 places. Donc 35% de jauge, c'est sûr que c'est une situation extrêmement délicate pour nous. Heureusement, il y a eu des systèmes de compensation sur les pertes de billetterie mis en place, mais il faut très vite qu'on retrouve notre jauge normale. Donc évidemment, tous les patrons de salles, tous les patrons de festivals sont inquiets. On est dans une situation de grande fragilité et c'est pour la raison pour laquelle il faut qu'on puisse réouvrir le plus vite possible des spectacles, du public, une activité, de l'embauche. C'est tout ce qui rayonne autour du Colisée. Si on additionne tout, quand on fonctionne, c'est énorme. C'est des prestataires de sécurité, c'est des dizaines de personnes, un restaurant, un bar, 17 personnels d'accueil hôtes et hôtesses. C'est un hôtel. L'hôtel de Roubaix, on fait plus de 1000 nuitées par an. Plus de 1000 nuitées. On a fait zéro cette année. Ben voilà, c'est tout ça. Donc il faut qu'on refonctionne normalement et on est inquiet. Donc évidemment, le communiqué, il parle de ça.
Et pour la question que je vous posais, monsieur, vous l'avez vu, il exprime l'inquiétude des occupations dans l'esprit de l'occupation qui serait bloquante. C'est évident. Mais à partir du moment où la question des blocages et de l'empêchement de travailler, de fonctionner est réglée, là je pense que les gens ici ont été très clairs, choisissez les bons alliés, j'ai envie de dire. Choisissez les bons alliés. Les bons alliés, c'est ici que vous les avez.
Et si je peux me permettre, on est d'accord sur l'ouverture des salles et qu'il faut que les spectacles reprennent. On est d'accord là-dessus. Mais pourquoi on ne peut pas cohabiter ? C'est ma seule question, c'est pourquoi ? Pourquoi on ne peut pas ? Bah oui, je pose la question à la direction, oui.
Moi, je sens que j'ai déjà répondu à cette question. Elle a été exprimée pas par moi, mais par la personne que je vois plus, là, tout à l'heure. Je ne suis pas seul à décider. Voilà, c'est tout. C'est un bâtiment public, ici.
Et justement, c'est un bâtiment public. On fait partie du public.
C'est le public qui a financé tout votre bâtiment aussi.
Monsieur, si c'est un bâtiment public, c'est bien une mairie élue qui est donc décisionnaire. En quoi la lutte ne serait-elle pas politique ? Et comment définissez-vous une culture apolitique ?
La lutte, elle est devenue complètement politique et plus sur le champ culturel. Je crois que c'est ça qui pose problème.
C'est l'expulsion qui est politique. Pourquoi est-ce que vous mettez la culture d'un côté et la politique de l'autre alors que la culture est politique ? Elle a toujours été, elle doit l'être toujours.
Sinon, qu'est-ce que le festival d'Avignon ?
Et si la décision, c'est pas vous qui la prenez, où est la personne qui prend la décision ?
Et là, vous êtes juste un consultant et un exécutant. Et vous tirez une balle droite, tout à fait.
Et chacun analyse, fait la lecture à ses propres idées, fait la lecture de ce mouvement, de ce qui va engendrer, etc. Moi, je vous ai exprimé à la fois mon point de vue personnel. On vous a accueilli, les occupants. Et franchement, on a été, je pense, proche de vous. Enfin, j'espère que vous êtes sentis comme ça. En tout cas, moi, je... Voilà. Comment ? Voilà, comme dit madame, je suis un simple exécutant, donc voilà. Hein. Ouais, mais ça, c'est du formalisme. Moi, je déteste ça. Moi, je suis pas quelqu'un qui... Je voyais, je suis là tout seul. Je vais pas appeler la police. Vous serez très déçus si vous attendez de sortir entre deux rangs de CRS. Je ferai pas ça. C'est pas ma manière de faire. Voilà, mais... Hein ? Que...
Vous avez dit tout à l'heure que justement, jusqu'à présent, tout s'était bien passé. Vous étiez plutôt dans la négociation finalement. Donc pourquoi est-ce que à ce moment-là, aujourd'hui, on est sur une décision assez brutale et qu'on n'est pas dans les champs, dans la négociation, puisque finalement, ce n'est pas votre méthode.
D'ailleurs, alors, attendez, je peux répondre à ça.
Et dans les faits, le principe de la solidarité suppose une réciprocité. Il me semble, en tout cas depuis la lecture des faits depuis plusieurs mois, c'est qu'il y a des salles et directions liées à ces salles. Et dans le cas du Colisée, la mairie et la direction n'ont pas eu de problème à ce que les intermittents occupent les lieux parce que vous estimiez que vos intérêts se rejoignent. Et maintenant que ces intérêts sont entre guillemets divisés, qu'il y a une divergence, que le gouvernement lâche du lest sur les filets de sécurité et sur la réouverture des salles, mais qu'il ne lâche rien sur la question de l'assurance chômage, vous voulez lâcher. Parce que c'est ce que je vois, très sincèrement, je suis pas spécial, je suis solidaire des intermittents, mais je ne suis pas un intermittent, je suis extérieur et je reste malgré tout solidaire. Le fait est que dans ces conditions, moi de mon œil extérieur, je vois que vous les lâchez. Vous n'essayez même pas de les aider. Je veux dire, dans les faits, si vous vouliez vraiment les aider, eh bien vous négocieriez avec eux pour que la lutte puisse continuer à exister. d'une manière différente, probablement compatible avec la réouverture des salles, mais vous ne faites même pas, vous n'essayez même pas. Et ça, c'est problématique. Et ça, vous devez le comprendre. Et on devra faire comprendre ça aux élus aussi. Voilà, c'est tout.
Voilà. Alors, excusez-moi, mais ce que vous dites n'est pas juste, malheureusement, puisque j'ai fait des propositions. Comme vous dites, ça doit être un dialogue. On a fait des demandes. Certaines ont... Enfin, on a fait une demande, en fait, très précisément, qui a été, qui n'a pas été actée par, par le groupe d'occupants. Ça a crispé les choses. À partir de là, ça devenait très difficile de faire des propositions. C'est tout. C'était de retirer une affiche qui était sur la façade. Voilà. Qui regroupait... 30 ou 40 revendications via des hashtags qui, dont je, pratiquement aucune, je pense, n'était à caractère culturel. Donc j'ai formulé la demande par oral ici, tout simplement, en venant comme ça. Il y a eu une assemblée générale, on m'a répondu formellement non, on n'enlèvera pas ça. On a redemandé en disant est-ce que, à l'issue de la manifestation de jeudi, le marathon de la danse, voilà, est-ce que vous pourriez l'enlever à ce moment-là? Et puis moi je suis rentré lundi, elle était toujours là, donc c'est moi qui l'ai enlevée. Mais voilà, ça a beaucoup contribué à cristalliser les choses. Je le déplore, mais voilà, il y a des choses, je peux avancer avec des propositions en disant au début, il y a 10 jours, avant que le ministère de la Culture et du Travail vienne avec justement les filets de sécurité et tout ce qui a été annoncé, moi j'étais dans la logique de dire, bah oui, vous vous exprimerez sur scène. Maintenant, la situation, elle évolue, voilà.
On a répondu par mail à cette demande qui nous a été faite de retirer l'affiche. On a répondu la semaine dernière en demandant, en disant si on retire cette affiche, est-ce qu'on a la garantie que derrière on ne sera pas à nouveau censuré parce qu'il y a d'autres signes de notre désapprobation au gouvernement à l'intérieur de l'occupation. On a posé la question, on a demandé est-ce qu'il s'agit d'une stratégie d'expulsion programmée comme il en existe partout, parce qu'au moment où cette demande a été faite, on savait ce qui se passait dans les autres théâtres et on savait que voilà, il y avait beaucoup de prétextes parfois pour, enfin voilà, pour le démarrage pour ensuite expulser les occupants. Donc on a posé la question, est-ce qu'il s'agit d'une stratégie d'expulsion programmée? Et si nous retirons la banderole, est-ce que derrière il y aura d'autres... Enfin voilà, est-ce qu'il y aura une forme de censure? On a posé une question.
C'est explicite que tu... enfin, pour moi, c'était une fin de non-recevoir. Et du coup, enfin, ce qui s'est passé, donc plusieurs jours après, c'est que c'est moi qui ai fait enlever la bâche. Voilà. Et ça, clairement, je pense que c'était une maladresse de la part du mouvement d'occupation. On est dans une négociation, on a autorisé beaucoup de choses, on a pris sur nous par moment. Je regrette vraiment que vous n'ayez pas lâché du lest là-dessus, ça me paraissait...
J'irais même plus loin. Est-ce que si jamais...
Non, parce que dans l'intervalle, il y a eu aussi les annonces ministérielles et voilà, et la réouverture qui approchait. Enfin, c'est l'ensemble des choses.
J'irais plus loin. Est-ce que si jamais les interlutants et les personnes qui occupaient ici avaient retiré l'affiche dans les temps où vous l'avez demandé, est-ce que ça aurait changé votre position aujourd'hui? Est-ce que vous seriez dans une autre posture? Parce que finalement, est-ce que c'est vraiment un point de crispation ou de cristallisation ou ça ne change rien? Et finalement, là, vous êtes là au nom de la mairie et des donneurs d'ordre du bâtiment municipal. Là, vous utilisez un faux prétexte, à mon avis.
On ne va pas refaire l'histoire. Je pense, moi, que les choses auraient été différentes, certainement. En quoi? Eh bien, cette affiche, elle mentionnait donc une liste à la Prévert de hashtags, franchement, qui n'avait du coup, pour le coup, rien à voir, hein. Enfin bon, je n'ai même pas envie de les énumérer tellement c'était farfelu pour certains. Parce qu'elle a été, mise en façade et visible de tous, du coup ça a été demandé.
Elle est affichée depuis le 12 avril, là, et elle a été enlevée lors du tournage et remise. Donc moi je sais, c'est moi qui l'ai postée sur internet. Donc le 12 avril, je l'ai mise. Et elle n'a jamais posé de souci.
Ben, ça a commencé à en poser au moment où elle était mise en avant comme ça. Et du coup, ça, franchement, je pense, oui, que les choses auraient été différentes. Ça a beaucoup contribué
à crisper les positions des uns et des autres.
Ouais. A priori, c'est quand même des revendications sociales, et sans les revendications d'avant, il n'y a pas de culture aujourd'hui. C'est les luttes d'avant qui a fait qu'aujourd'hui il y a ce genre d'hashtag. C'est la culture aujourd'hui qui ont fait qu'aujourd'hui on parle français, on parle, etc. La culture en règle générale, comme vous prenez le conflit israélo-palestinien. Dans la Seconde Guerre mondiale, après, les gens ils étaient tellement pas bien, malades, etc. Ils ont eu la culture, les cinémas, les théâtres, pour réhabiter, cohabiter. Post-guerre, il y a eu énormément de morts. Vous parlez d'Israël-Palestine. Aujourd'hui, les familles palestiniennes, ils sont en Espagne à regarder la culture. Voilà ce que je suis en train de vous dire. Alors, à un moment donné, sans culture, il y aurait une grosse crise sociale. Et c'est nous qui l'avons construit, la culture, et nos ancêtres, tout simplement.
Moi, je peux aussi ajouter quelque chose. Moi, j'ai l'impression d'assister depuis tout à l'heure. C'est la première fois que je suis ce mouvement depuis longtemps. Mais c'est la première fois que je viens, personnellement, physiquement. Et en fait, c'est drôle parce que j'ai l'impression de voir une machine, de voir l'administration parler avec les usagers du service public de la façon qu'on a l'habitude de connaître. C'est-à-dire, oui, vous avez raison, oui, on vous comprend. D'ailleurs, à titre individuel, en fait, je suis d'accord avec vous, c'est vrai. Moi, j'aimerais aller plus loin parce que je ne suis pas intermittent du spectacle, mais je suis parmi les personnes qui ont des contrats précarisés. J'aime pas dire précaire, je préfère dire contrat précarisé. Il y a bien des gens qui y réfléchissent et qui y travaillent. Et en fait, le chômage, c'est quelque chose d'incroyablement violent qui arrive. C'est pas un sujet, ça. Alors, je comprends bien que la direction qui touche 3 000 euros net, 3 500 euros net par mois, en fait, ils se sentent solidaires. Mais la solidarité, je pense qu'aujourd'hui, en fait, elle est beaucoup plus partagée par les gens qui, eux, risquent de se retrouver dans le gouffre dans quelques semaines, dans quelques mois, en fait. Donc l'idée aujourd'hui, et moi j'ai envie de passer ce message, parce que vous savez que quand c'est une machine qui est en face de nous, on peut rien faire. On va faire quoi? Donc on va finir par se faire expulser, c'est une question de quelques jours, demain, après-demain, mais on fera au mieux, parce que la machine elle fera tout pour faire en sorte que le jour où on est exclu, ben, elle puisse polisser quand même sa communication, comme d'habitude. Mais sauf qu'à la fin, la lutte elle doit continuer, parce qu'en fait le problème c'est que cette machine, elle fait pas de marche arrière, elle comprend pas. Donc moi, lorsque j'ai envie de passer comme message, peut-être aux gens qui se mobilisent, c'est de leur dire, vous savez quoi? L'origine du problème, elle est politique. La réaction à ce problème, elle est politique. La tentative de résolution de ce problème, elle est politique. La solution, elle est politique. Donc si j'ai envie de proposer quelque chose, c'est peut-être de dire aux gens, alors je suis aussi désabusé que vous par la politique, croyez-moi, mais en fait, il n'y a que ce canal qui va nous permettre de changer les choses. C'est le rapport de force qu'ils aiment. Alors donnons-le leur. Pourquoi ne pas s'organiser au-delà de cet espace, j'ai envie de dire. Parce que je peux vous dire que dans le quartier de Pelle, que vous connaissez peut-être aussi bien que moi, des gens qui sont prêts à se fédérer autour d'une cause juste, il y en a plus d'un. Il y en a beaucoup plus d'un. Et c'est en remettant tout ça dans le contexte que j'ai envie de dire au directeur du Colisée, choisissez bien votre camp. Choisissez-le bien, parce que là, le problème, il est bien plus profond uniquement que l'accès à la culture, même si l'accès à la culture est un immense problème. Donc je remercie aux intermittents du spectacle aujourd'hui de dire, nous on veut rester, même si en fait, en partie, notre petite cause à nous, parce que c'est la technique de la machine, de diviser les causes, de disperser les gens, de disperser les problématiques. Sauf que moi, je suis bien content de venir au musée aujourd'hui et de dire, c'est terminé tout ça. Et vous savez quoi? J'ai qu'une trentaine d'années, donc les nouvelles générations, elles arrivent aussi. On ne va rien lâcher, on est solidaires, soyez solidaires, on continue, on y va à fond, et allez-y, prenez vos décisions, écrivez-les bien en français, en bon français, comme vous savez le faire, mais sachez qu'il y a des compétences aussi, et qu'on ne se laissera pas faire, et qu'on maîtrise aussi aujourd'hui le droit, on maîtrise les règles, on maîtrise les process, et moi j'aimerais peut-être demander aux représentants du mouvement de demander, de forcer ces pseudo-hommes politiques, les forcer à prendre des positions. Bon alors, vous pensez quoi, vous? C'est oui ou c'est non? Parce que le « je vous aime bien, mais c'est comme ça », ça, ça marche pas, en fait. Ça, vous pouvez l'entendre, vous. Vous qui êtes dans les bureaux. Mais les gens qui sont en bas, qui ont dit à partir de juillet, on t'enlève 300 euros net par mois. Quand des augmentations annuelles, elles se font à 1 euro et on dit « vous devriez être content ». Mais vous vous rendez compte? Donc à un moment donné, c'est cette colère-là qu'il faut comprendre. Et je pense que c'est celle-là qu'il faut relayer. Et qu'il faut dire peut-être aux gens « c'est la politique, les gars ». Alors on l'aime pas. Peut-être que si on l'avait mieux aimé, il fut un temps, on n'en serait pas là.
Mais il est temps qu'on l'aime, la politique, parce qu'elle, a priori, elle ne nous aime pas. Merci.
Je pense que vous représentez, malgré vous, quelque chose qui dépasse de loin, qui est en train de faire une accélération de dingue du jamais vu dans l'histoire. Moi, mes parents, ils ont une 60aine d'années, j'ai mon père qui est décédé. D'accord ? Ils ont vécu ici depuis les années 60, à Roubaix même. Ils n'ont jamais vu ça de leur vie. Mon grand-père, il a 90 ans, il n'a jamais vu ça de sa vie. Quand est-ce qu'on va entendre ça ? Quand est-ce que ça sera entendu ? L'assurance sociale, le chômage, ah ben c'est sûr, quand vous, votre chômage, il a 2005 nets par mois, c'est sûr que ça vous dérange pas 300 euros de moins. Allez essayer de vivre déjà avec les 1002 du SMIC. Et quand on vous enlève encore 300 euros par mois et que vous pouvez même pas payer votre loyer, vous faites quoi? Ça, c'est la réalité. Et là, on nous dit, mais non, attendez, parce qu'on va bien le dessiner, on va bien l'écrire, ça va être beau, vous allez voir. Et puis si c'est possible, traverser aussi. Parce que de l'autre côté de la rue, il y a souvent beaucoup de choses. Moi, je les ai jamais vues, pourtant je suis piéton. Vous voyez ? Donc à un moment donné, non, il faut vraiment le dire. Et je vous dis, il ne faut pas... Vous savez, moi, je ne m'adresse pas au directeur, je ne m'adresse pas à ça. Je m'adresse à des êtres humains comme moi, des gens qui partagent mon quotidien. Si vous vivez ici, vous partagez les rues, vous partagez les transports en commun, vous partagez les écoles, vous partagez les restos, vous partagez tout. Donc si vous voulez améliorer les conditions... Vos conditions, celles de vos enfants, celles de vos voisins, il faut peut-être commencer à comprendre que ce qu'on doit faire, c'est commencer à réfléchir sérieusement, commencer à cibler réellement ceux qui n'assument pas leurs responsabilités mais qui le devraient. Et quand on aura ciblé qui n'assument pas leurs responsabilités mais qui le devraient, là, d'une seule voix, on pourra leur dire « Vous tranchez ou vous ne tranchez pas ?» Alors, c'est quoi ? C'est oui ou c'est non ? Parce que moi, je trouve qu'on nous vend beaucoup de choses de démocratie, de belles paroles. Elles sont magnifiques, je les ai étudiées, hein, c'est très très beau. Mais par contre, sur le terrain, et là, sur les réformes qui sont en train de nous arriver dans la gueule, qui vont arriver dans la gueule des Français, là, dans les semaines qui arrivent, après celles qui sont arrivées les 12 derniers mois, il n'y a pas beaucoup de démocratie là-dedans. Hein ? Il n'y a pas beaucoup de démocratie, il n'y a pas beaucoup de concertation. Donc c'est bien beau les beaux discours, mais moi, je préfère les paroles vraies. Donc il faut des paroles vraies, et il faut surtout que les gens s'unissent, parce qu'on ne s'en rend pas compte. Parce que quand on n'est rien... Quand on n'a pas de titre, c'est tellement difficile. Et pourtant, je peux vous dire qu'en réalité, les titres ne valent rien du tout quand les gens s'unissent. Et on ne se rend pas compte. Vous savez, il y a des élections qui arrivent, départementales, régionales, présidentielles, législatives. Vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on peut transformer la France. Sa vitrine, sa façade, on peut la transformer. Mais dans une ville où 80% des gens ne votent pas, c'est plus facile de leur dire « Ah non, non, vous avez bien compris, on est d'accord avec vous ». Sortez dans la rue et puis allez là où on doit aller normalement, selon les règles, etc., etc. Parce que ça vous arrange vous. Ça arrange pas les gens. Donc là, maintenant, c'est les gens. Il faut qu'on se sorte, nous, tous ensemble. Bravo. Merci.
C'est un appel à l'engagement individuel qui vient de vous être fait. C'est-à-dire que depuis, il y a un moment dans la discussion où, après avoir exprimé votre avis personnel, vous nous dites « Bon, là, ça dépend plus de moi. C'est la mairie au-dessus d'un tête. Moi, là, ici, je suis directeur, je vous ai filé mes éléments de langage et ça s'arrête là. » Mais vous voyez ici que vous n'avez pas d'ennemis et vous avez des gens qui, eux, quel que soit leur boulot, leur fonction dans la vie, ont décidé de s'engager. La demande qui vous est faite aujourd'hui, et on salue au passage, que vous ayez fait le choix... courageux, humain, de venir parler sans les forces de l'ordre et les cordons de CRS. Ça aurait été terrible que vous fassiez autrement. Là, on a la possibilité de vous parler et on vous dit, changez d'avis. Engagez-vous individuellement, comme le fait David Bobet au Théâtre du Nord, à soutenir la poursuite de ce mouvement d'occupation en négociant la présence des occupants et occupantes du Théâtre du Colisée d'une façon qui sera compatible avec la réouverture de votre salle et la poursuite, vous n'en tirerez que des bénéfices. Vous n'en tirerez que des bénéfices. Vous garderez ici les alliés qui vous ont aidé à rouvrir. Et dans les conditions précaires avec lesquels vous êtes en train de rouvrir votre salle, vous ne pouvez pas vous passer de ces alliés. Dans le quartier et la ville où vous vivez, vous ne pouvez pas vous passer dans votre théâtre qui a pour vocation d'être un théâtre populaire. Vous ne pouvez pas vous passer de ce lien réel avec la population qu'il y a ici. Parce que là, c'est un divorce terrible que vous allez opérer. Cette société est en train de se fragmenter, comme l'a dit notre camarade, d'une manière telle qu'on ne l'a jamais connue. On est face à des enjeux historiques là, qui nous appellent tous individuellement à nous dresser et à faire des choix. Faites le choix de vous asseoir avec nous et de reprendre les négociations. Faites le choix de changer d'avis et de porter courageusement votre mandat, monsieur le directeur.
Vous savez, moi, j'ai pas de poids sur les décisions du gouvernement. Hein. La réforme de l'assurance chômage, c'est pas moi qui m'en occupe. Donc c'est pour ça que je vous dis, votre lutte, dans toute sa légitimité, elle doit être portée, mais pas au sein de ce théâtre. C'est pas le genre de revendications qui doivent s'opérer
moi,
ici.
Je vais vous dire, monsieur, excusez-moi de vous couper la parole, mais demain, si vous perdez votre place, vous êtes concerné par l'assurance chômage. Tout le monde est concerné ici. Même le quartier est concerné, surtout le quartier, parce que moi je le connais, j'habite à 10 minutes d'ici, et je le connais très bien le quartier. Ici c'est un des quartiers les plus pauvres, et vous vous mettez à dos un des quartiers les plus pauvres, juste pour une décision politique, parce que moi la décision que je vois là aujourd'hui, comme jeune homme l'a dit, hein, ben, c'est une décision politique, c'est pas votre décision. Et c'est ça qui me met un petit peu en rogne aussi. Parce que moi, je connais le chômage, je le sais, je le vis actuellement. Moi, on m'a dit que mon travail n'était pas essentiel. Et je suis encore au chômage aujourd'hui. Et j'attends de travailler demain ou après-demain ou dans un autre jour. Je me suis retrouvée avec 70 clients, des gros clients, en moins. Et c'est ce qui va vous arriver demain, monsieur.
Et vous savez qu'en tant que fonctionnaire, parce que vous êtes directeur d'un service public, c'est ça ? Eh bien, avec la case du service public, vous n'êtes pas non plus à l'abri également de vous retrouver au chômage. Donc plutôt que se diviser entre nous, on ferait mieux de se serrer les coudes.
Écoutez, je dois pas m'exprimer assez clairement, puisque je viens de vous dire que j'estimais que cette lutte, elle était légitime. J'entends parfaitement ces revendications, mais je pense que le Colisée, encore une fois, n'est pas l'endroit où elles doivent être exprimées. Je pense qu'il y a des syndicats, je pense qu'il y a des partis politiques, et il y a les urnes. Et c'est là que ça se passe.
Le public qui va être là le 20 au square ne sera pas choqué s'il n'y a plus le mouvement d'occupation. Vous pensez qu'il trouvera ça normal qu'après 2 mois d'occupation, on arrive, on va au spectacle, alors, ou alors vous avez un public qui vient, je ne sais trop.
Vous savez,
ça ne tient pas la route. C'est ici que ça se passe. C'est ici précisément que ça se passe.
Le théâtre, il est
c'est
pas
ici
étanche,
que se fait la rencontre entre la culture et la politique.
En fait, oui, ce que j'arrive...
c'est le lieu même où ça se fait.
Ça s'appelle de l'émancipation politique culturelle.
Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi avant ça l'était et maintenant ça l'est plus. En fait, on n'a rien changé. On est toujours les mêmes personnes occupées. On fait toujours le même travail dans le quartier. On fait des agora les dimanches. On a fait le premier événement en 2 mois où il s'est passé des choses. Et maintenant, on ne peut plus. Il n'y a rien qui a changé. Rien. À part cette banderole qui a fait polémique. Mais ça fait un peu... vous ne voulez pas l'enlever. C'était la seule fois où on n'était pas d'accord avec vous. Et ben, du coup, on n'est pas d'accord. Bah, dégagez. Bah, non. Non.
Concernant notre secteur d'activité, hein, qui sont des annonces très importantes.
Oui, mais du coup, rien n'empêchait l'annonce de ça avec notre occupation, en fait. Jamais dans l'annonce, ça a été dit, du coup, tous les occupants, vous sortez.
Oui, et puis tout à l'heure, vous avez bien dit que si l'affiche avait été enlevée tout de suite, ça ne serait pas passé comme ça aujourd'hui. Donc expliquez-nous, là, parce qu'on ne comprend pas.
Pas une machine, en tout cas vous êtes un bon serviteur, vous avez votre place, peut-être vous avez des pressions ou autres, des politiques, mais cette histoire d'affiche, excusez-moi, ça sert à rien de se fatiguer, c'est du pipeau, c'est un prétexte, un sacré prétexte, un sacré ventre pour arrêter. Vous êtes juste là, comme disait monsieur, à relayer des éléments de langage.
Et on est dans une négociation, et qu'est-ce qui pèse dans une négociation? C'est les rapports de force, tout simplement. Et là, il y a un ministère qui commence à donner des directives, vous avez votre rôle à jouer, et votre rôle, c'est quoi? C'est de relayer ce qu'on vous dit de dire. Point barre. Quel que soit votre avis personnel, vous avez vos obligations, etc. Mais faut arrêter avec cette histoire d'affiche de négociation. La négociation, elle est dans le rapport de force. C'est tout, hein.
Bon, et donc, de la même manière, vous vous demandez à ce que les occupants relayent les messages de la CGT. Vous voyez, je sais bien qu'il y a un rapport de force dans tout ça.
La CGT relaie ce que les intermittents veulent dire, pas la base. La base qui a plus.
Là, vous avez des super bonnes techniques de rhétorique pour dévier le débat. Moi, je suis en solidarité.
Moi, je fais pas de politique.
Syndicalement et personnellement, et en tant que citoyen. Voilà, je relaye aucun message ici, hein. Je dis juste que ce que vous dites, c'est du pipeau. Point barre. Ouais, et vous arrivez à dévier le sujet.
Je ne suis pas un politicien. Hein. Moi, je discute avec des metteurs en scène, des chorégraphes, des comédiens. Là, vous me prenez sur un sujet politique, ce n'est pas mon terrain. Hein. Et je vais vous dire franchement que ça ne m'intéresse pas tellement.
Mais votre décision n'est pas...
Bah ouais, je suis désolé. Alors, voilà.
Je voudrais juste poser une question. Parce que inversement, si c'est au syndicat de discuter de questions d'assurance chômage et que c'est plus une question de la culture, quelle est dans ce cas la légitimité des directeurs, directrices de salles, directeurs de structures, des gens de la DRAC? Quelle est donc leur légitimité à soutenir, accompagner des projets qui se veulent être le reflet du monde et qui parlent de culture, qui parlent de société en fait? C'est acter une scission presque définitive. Quelle est donc la légitimité des directeurs, directrices de salle à porter une ligne artistique qui serait alors, ou alors on n'est que dans le divertissement? Enfin, est-ce que les choses, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire de ce qui se profile là? Il y a cet endroit où c'est plus possible, quoi. Enfin voilà.
Monsieur, je vous entends dans ce que vous dites. Excusez-moi, c'est un peu compliqué. Mais j'ai du mal à comprendre, enfin, excusez-moi, j'ai du mal à comprendre en fait la scission que vous mettez entre le théâtre et le reste du monde. Je veux dire, il se passe plein de choses dans notre société, on est ici plein de corps de métier, plein de gens différents, mais surtout des citoyens qui aiment notre théâtre et qui se défendons pour essayer de garder des choses et pas en perdre tous les jours. Et là, on en perd une quantité astronomique, et c'est bien au-delà de ce théâtre. Et les revendications, elles ont quand même pendant longtemps porté dans les théâtres. Moi, je veux dire, j'ai 35 ans, en 2004, je me souviens des réformes sur l'intermittence du spectacle, on avait des gens qui montaient sur scène au milieu d'un vaudeville ou de quelque chose, et qui délivraient un message et qui le faisaient en concertation avec les directeurs de théâtre, qui étaient aussi des artistes, c'était pas que des fonctionnaires qui se faisaient le relais d'un message en disant derrière, mais par contre, je ne fais pas politique, parce que je veux dire, c'est pareil, il y a un décalage. Vous pouvez pas dire, moi, je suis là à vous donner un message politique, à vous délivrer un message politique, je ne suis qu'un fonctionnaire, et derrière dire, par contre, je ne fais pas de politique, c'est pas entendable pour nous. Et vous avez réagi par rapport à une banderole, là où vous avez que des gens autour de vous qui vous demandent de réfléchir. Et le réactionnel, on a que ça en ce moment, on a que de la réaction. C'est pas bon, bim, et la sentence derrière est 10 fois pire. C'est ce que disait l'autre, là, il y a une banderole, il y a une cristallisation, ça arrive de se cristalliser. C'est pas vraiment un conflit, c'est un débat, on s'interroge et on essaye de garder ce qui fait notre richesse. Et vous répondez par le bâton. Et là encore, vous répondez, on a l'impression d'être des enfants passage. Ah, mais si vous aviez enlevé votre banderole, ce serait passé tellement différemment. Mais monsieur, on n'est pas des enfants. Et on est capable de reprendre du recul, on est capable de vous entendre. Mais par contre, ce qu'on n'entend pas, c'est la façon dont vous retirez de tout ça, dont vous refusez de prendre parti. Parce que ce n'est pas entendable. Parce que d'un certain côté, ok, vous êtes un directeur, mais vous faites quand même partie des nôtres. Je veux dire, juste côté artistique. Et au-delà de ça, bah nous, notre vie, c'est d'être dehors, d'être dans la rue, d'être sur des théâtres, de voir des gens, de discuter avec eux. Et on ne peut pas remonter sur scène et être complètement hermétique à tout ce qu'on a vu et à ne pas pouvoir le retranscrire et à ne pas pouvoir le porter. Enfin, je veux dire, il y a quand même un hiatus énorme entre ce que vous dites, la réalité des choses, et surtout la façon dont vous répondez. C'est tout.
Swan, tu vois, pour te répondre, bon, d'abord, il y a des lieux qui sont des lieux de création avec des directeurs qui sont des artistes, et il y a des lieux qui sont des lieux de diffusion, c'est notre cas. Hein, donc, moi, je ne suis pas un créateur. Hein. Alors, je ne suis pas non plus un fonctionnaire, en fait. Hein. Je me posais la question tout à l'heure. Voilà. Je ne suis pas non plus un fonctionnaire. Mais le point dont je m'exprime, c'est... Moi, je suis un citoyen, hein, voilà, c'est tout. Et moi, je pense que les expressions, les revendications politiques...
eh ben, c'est pas au Colisée qu'elles doivent s'exprimer. Voilà, je vous le redis, c'est tout.
Juste une chose, parce que du coup, là, on voit bien qu'on tourne un peu en rond et que c'est les mêmes phrases à chaque fois. Du coup, si c'est pas vous qui pouvez donner cette décision, discutons plus haut et essayons d'avoir un échange avec la personne qui pense ça, qui peut avoir cette décision-là. Nous, on est prêts à la discussion, on veut bien discuter. Si ça se trouve, on va complètement se planter, hein. On sait pas, j'en sais rien, je dis pas qu'on va forcément gagner, mais juste, discutons avec cette personne. Et peut-on est-ce qu'on peut se servir, entre guillemets, de vous pour avoir contact avec cette personne? Parce qu'on sait que nous, ça va prendre du temps. Et que du coup, il y a un moment, le spectacle, c'est jeudi. S'il faut qu'on ait des discussions, faut que ça aille vite.
Moi, je veux bien relayer votre demande de rendez-vous, si c'est ça. En fait, c'est ça que vous demandez. Enfin, moi, c'est pas moi qui réponds. Hein. C'est pas moi qui maîtrise l'agenda du maire ou de. C'est ça que vous voulez. Moi,
je...
Oui, oui. Bah, ok, d'accord. Bon, bah, alors voilà, un engagement, si vous voulez. Je m'engage à relayer cette demande de rendez-vous.
Mais... que de les recevoir, on peut même les attendre un petit peu le temps qu'ils fassent le déplacement.
Parce que je pense que personne ne va bouger là.
C'est aussi une
honte
pour vous de vous déplacer.
Là, on n'est pas parti à 18h, nous, hein. On reste.
Il y a peut-être une solution pour la saisir.
Non, non, mais je m'engage à le faire, mais je le fais sûrement pas maintenant. Non, je le ferai là-haut, tranquillement. Voilà. C'est tout. Bon, écoutez... Ah, moi, je crois que je vous ai dit ce que je vous ai à vous dire. J'ai entendu quand même beaucoup d'expressions ici. Voilà. Hein. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Voilà.
On arrive à l'usine, la gaieté nous illumine. L'idée de faire nos 8 heures nous remplit tous de bonheur.
Ah, 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 ah oui.
D'humeur égale et joyeuse, nous courons vers la pointeuse. Le temps d'enfiler nos bleus et nous voilà tous heureux. La ira, la ira, yeah.
Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
De travailler pour vous, on est heureux comme des fous. Merci patron,
merci patron,
merci patron,
merci patron.
Ce que vous faites ici-bas, un jour Dieu vous le rendra.
Quand on pense à tout l'argent qu'au fin de mois on vous prend, nous avons tous un peu honte d'être aussi près de nos comptes.
Ah, 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 ah oui.
Tout le monde à la maison vous adore avec passion. Vous êtes notre bon ange et nous chantons vos louanges.
Like la, like la, yeah. Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Quel plaisir de travailler pour vous. On est heureux. Un jour Dieu vous le rendra.
Oui, c'est ça.
Mais en attendant ce jour, pour vous prouver notre amour, nous voulons tous vous offrir un peu de notre plaisir.
Ah, 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 ah oui.
Nous allons changer de rôle, vous irez limer la tôle et nous nous occuperons de vos ennuis de patron.
Like it, like it, like it. Nous serons patrons,
nous serons patrons,
nous serons patrons,
nous serons patrons.
À vous le plaisir de travailler pour nous.
Vous serez heureux comme un fou.
Nous serons patrons,
nous serons patrons,
nous serons patrons,
nous serons patrons.
Ce que vous avez fait pour nous,
nous le referons pour vous.
Mais il est plus petit que le jardin de ma tante.
Ouais. Ah bah si. Et mon patron, il change de costume deux fois par jour.